Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon-Émile.
Bonsoir à tous, bonsoir et merci de nous écouter sur Aligre FM 93.1. Je vous souhaite une bonne année à l'écoute de nos émissions. Amis auditeurs et auditrices, merci beaucoup de votre fidélité. Je vous propose de commencer cette année d'émission par la poésie, l'écriture poétique notamment. Dans bien des circonstances, poésie et littérature sont des chemins d'accès au réel parfois plus percutants que la pensée rationnelle. Ça tombe bien car mon invité est poète et romancier, Watson Charles, dont le pays de naissance est le territoire et l'arrière-plan de son écriture. Bonsoir Watson Charles.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM, Watson Charles. Vous avez écrit donc des recueils de poésie comme « Le chant des marais »,« Saint Noir ». Vous avez également publié un roman intitulé « Le ciel sans boussole ». Et vous avez donc fait paraître récemment « Le goût des ombres », qui regroupe une dizaine de nouvelles. Alors, roman, poésie, nouvelle, Watson Charles, qu'est-ce qui vous incite à assumer une telle diversité de formes littéraires ? Pour vous, chacune de ces formes répond-elle à une nécessité intérieure ? Expliquez-nous comment vous arrivez à passer de ces différentes formes.
C'est une très belle question et je tiens à vous préciser que je suis à la fois poète, écrivain et nouvelliste. Et je pense que la littérature, c'est tout un champ. Il faut explorer tous les champs. Quel que soit, on est poète, on est écrivain, on doit ouvrir les champs des possibles, essayer en quelque sorte sortir d'un schéma classique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est poète, on ne peut pas écrire un roman. Donc, on connaît l'histoire. Dans l'histoire littéraire, beaucoup d'écrivains ont fait ce choix-là. Donc, pour ma part, c'est surtout lié à une nécessité de quand j'écris la poésie, c'est pour parler de l'intime, mm-hmm. parler de quelque chose qui m'habite, parler de sensibilité, du désir, d'habiter aussi un pays. Donc la poésie pour moi est plus intimiste, essayer d'aller chercher au plus profond de moi-même cette essence-là qui est l'être humain. Alors que le roman, c'est pour essayer d'accomplir quelque chose de beaucoup plus concret.
Alors, puisque donc j'ai roman, effectivement, vous en écrivez. Et là, donc, abordons donc Le goût des ombres, qui est un recueil donc de nouvelles. Donc là, ce sont bien sûr des récits. La nouvelle, donc, ce sont des récits beaucoup plus courts. C'est en ce sens que ça diffère du roman. C'est-à-dire, vous considérez que la nouvelle est plus impatiente que le roman ? Qu'est-ce qui vous avait fait passer donc du récit long, pour l'instant on met la poésie de côté, passer du récit long qui est le roman aux nouvelles, qu'est-ce qui vous intéressait dans cette diversité?
Sans faire une histoire du genre, essayer d'épiloguer comment je fais, comment j'ai passé de nouvelle au roman, je trouve que la nouvelle c'est un genre qui est assez important dans la littérature, mais qu'on néglige ces temps-ci, parce que peut-être la nouvelle, les modalités, les formes, c'est un peu très courte, donc il y a une sorte je dirais plutôt que quand on lit une nouvelle, on a l'impression d'un goût inachevé. Mmh. Donc, qui se diffère totalement du roman qui est dans l'étalement. Le roman, ça s'étale sur plusieurs mmh. pages et ça parle du réel, en fait, ça déborde. Alors que la nouvelle, plutôt, ça concentre le récit mmh. et ça nous laisse un peu sur nos fins.
Donc, Le goût des ombres, c'est publié donc aux éditions Unicité. Ce livre rassemble 10 nouvelles, pour citer quelques titres, Blessure, Et si les dieux nous haïssent, seuls les oiseaux dansent dans la nuit, et le goût des ombres qui donne son titre au recueil. Le trait commun de ces 10 nouvelles, Watton Charles, c'est le quotidien donc, des Haïtiens et Haïtiennes à différentes époques, marquées par les inégalités, la débrouillardise, la lutte pour mieux vivre, la douleur aussi. Des récits parfois imprégnés d'une atmosphère magique. Dans ce recueil de nouvelles, donc, le réel haïtien est traité dans son quotidien le plus prosaïque. Alors, vous évoquez parfois des faits réels, comme des catastrophes naturelles, des inondations qui ont ravagé la ville d'Elgonaïve en 2008, ou le tremblement de terre de 2010, ça va faire maintenant 16 ans. Alors, que nous disent donc ces récits que les médias et les reportages n'ont pas su dire, par exemple ?
Je pense pas que et les médias essayent de dire des choses qui sont très élogieuses.
En tout cas, ils disent les faits tels qu'ils sont. Oui, ils s'efforcent.
Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, et je suis là tout simplement pour dans ce recueil-là de parler d'un pays qui est toujours saisi, happé par certaines bouleversements. Et c'est de parler d'un pays que je connais bien, puisque je suis né là-bas, et parler des quotidiens, essayer en quelque sorte et montrer du doigt les inégalités. Donc je pense que tout mon recueil parle de ça. Donc de parler aussi de ce qui fait ce pays, c'est surtout sa résilience, et des gens qui y habitent, bien sûr, et quelque part de donner à voir ce qu'on porte étant que peuple. Donc voilà.
Alors c'est assez surprenant puisqu'il y a l'un des recueils donc l'une des nouvelles, des récits donc de ce recueil, Le goût des ombres, qui s'intitule Seuls les oiseaux dansent la nuit, un titre avec une teneur poétique assez forte, mais on découvre quand même une histoire tragique. Il s'agit donc d'une jeune femme dont la mère la confie à sa propre cousine. Et c'est une femme donc, qui se retrouve enceinte parce qu'elle est abusée donc, par un homme mulâtre. Donc, situons bien donc, dans le contexte haïtien, donc, mulâtre, c'est le métis. Donc les personnes à la peau plutôt claire, qui sont la classe dominante du pays, pour faire simple. Et en même temps, donc, cette jeune femme se retrouve à porter cet enfant qu'elle n'a pas désiré et qu'elle obtient avec ses conseils les plus terribles. Et là, c'est... Vous mettez le doigt dans ce récit d'un phénomène qui existe depuis très longtemps en Haïti, c'est ce qu'on appelle donc les restes avec, pour traduire en français, donc rester avec. Ce sont des familles de conditions très modestes qui confient souvent leurs enfants à des familles plus aisées. Donc là l'enfant est pris en charge, est nourri et blanchi. Et là, donc, les abus se font, c'est assez courant. Qu'est-ce qui vous a porté à traiter ce sujet, qui est quand même extrêmement dur et délicat, dans un recueil avec ce titre assez poétique ?
Bon, en dehors de parler de ce récit, je trouve que, et il faut dire que je suis un féministe. Je pense que vous avez remarqué dans tous mes recueils, dans tous mes textes, c'est la femme qui domine, qui prédomine. Donc, je voulais faire un truc très simple. Je voulais tout simplement montrer que la femme est doublement exploitée dans la société haïtienne. Avec ce récit, j'ai essayé de montrer que l'exploitation est faite par le pouvoir. Et l'exploitation, en fait, la classe dominante aussi, le patriarcat. Donc, puisqu'on l'homme, c'est l'homme qui va abuser de la jeune fille. C'est une jeune fille, c'est pas une femme de 30 ans. Donc voilà, c'est pour montrer que le pouvoir qu'exerce le mâle, en fait, l'homme mâle, sur des gens défavorisés, mais aussi la politique. Donc, comment la politique, le politicien, et laisse désœuvrer certaines personnes. Donc voilà, elle est maltraitée, elle est exploitée par la politique, par ça et par la bourgeoisie. Donc c'est ce discours-là que j'ai porté dans ce texte-là, c'est montrer que la femme haïtienne est complètement désabusée, complètement est exploitée par un système inégalitaire, et il faut que ça change. Donc je ne suis pas là pour faire une sorte de plaidoirie pour la femme haïtienne, mais je trouve que c'est important de signaler.
Dans votre roman, Watson Charles, Le ciel sans boussole, qui est donc votre premier roman, c'est d'abord l'histoire d'une amitié. Donc Jackson et Rodrigue, qui tous les deux vivent dans la misère et tentent donc de survivre. Là encore, c'est la survie. Il y a beaucoup de questions de survie hein, dans vos écrits. C'est le réel haïtien qui le veut. Rodrigue meurt et Jackson se retrouve seul. Donc le ciel sans boussole peut être interprété de différentes manières. C'est aussi donc cette absence de cet ami que vit Jackson. Comment est-ce que vous définiriez ces deux personnages, Rodrigue et Jackson, des personnages tragiques malgré tout? Comment est-ce que vous les avez construits? Comment est-ce que vous définiriez?
Juste avant, j'aimerais attirer votre attention sur ce texte, mon premier roman qui a reçu le mention spéciale du jury Prix Senghor. Et donc, je voulais, dans ce texte, avant tout, il faut dire l'idée principale, l'intention, c'était une sorte de rupture avec la littérature post-séiste. Donc, on sait que...
Post-séisme, vous voulez dire.
Séisme, oui, excusez-moi.
Donc, voilà. Donc, par rapport au tremblement de terre qui a eu en Haïti en 2010.
Oui, tout à fait. Donc, je voulais complètement essayer de montrer une histoire d'amitié, puisqu'on sait que toute la narration de 2010 a peut-être bien dans une époque récente, période récente, où on parle que du séisme. On parle que du tremblement de terre, on parle que... Toute la fiction haïtienne tourne autour de ça. Et moi, je voulais écrire une histoire sur l'amitié. Pour moi, Jackson et Rodrigue, c'est les deux personnages de Godot. En attendant Godot de Beckett, ce que je voulais dire. C'est Apagon et Pozzo. Donc voilà. Donc
ce sont ces deux personnages qui vous ont inspiré pour construire Dick et Jackson.
Oui, mais il y a dans ce roman-là un personnage réel, Jackson. Il existait en tout cas. C'était un cousin à moi qui a connu une fin tragique, comme Rodrigue, comme le personnage dans le roman. Excusez-moi. Ça part d'un fait réel, effectivement. Je voulais écrire cette histoire pour lui.
Alors, vous faites allusion à En attendant Godot de Beckett. Et là, donc, ce sont des personnages qui attendent quand même une forme de miracle qui ne vient pas. Ça, quand même, ça incarne un peu l'attente illimitée de ces personnes et qui souffrent dans ce pays. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet aspect-là?
Oui, je dirais plutôt qu'il n'y a pas de miracle dans ce on n'attend pas. Dans le schéma narratif du roman, il n'y a pas de miracle, puisqu'on va voir que dans ce texte, et Jackson va se révolter, va se mettre à combattre le système. En fait. Le pouvoir en place et jusqu'à sa mort. Donc c'est pour moi une forme d'accomplissement.
Il n'y a pas de fatalité, vous voulez dire.
Tout à fait.
Il lutte contre, pour changer les choses.
Tout à fait. Donc voilà, heureusement, c'est une histoire qui essaie de montrer qu'on ne peut pas, s'acharner, en fait... subir le sort de la politique ou autre chose, il faut se battre.
Donc restons aussi, passons à vos poèmes, Watson Charles, qui est quand même un registre bien sûr très différent, où là c'est bien sûr l'arrière-plan d'Haïti est toujours là, mais c'est beaucoup plus ouvert. C'est davantage la présence de la mer MER que l'île lui-même. Déjà, cette notion de marée qui évoque ce qui n'est pas fixe, qui n'est pas figé, c'est le mouvement qui emporte, en même temps c'est le mouvement qui dépose sur les rivages. J'ai lu ce recueil, Le chant des marées, comme étant des poèmes de l'inquiétude et de l'errance. Est-ce qu'on peut le voir comme ça?
Tout à fait. Pour moi, c'est l'errance. Et ça parle de la mer. J'ai écrit ce texte en 2018, je crois, paru en 2018. Certains poèmes ont été déjà publiés dans des revues. Et effectivement, ce texte parle aussi de la mer, de l'errance. Et personnellement, c'est mon errance, mais pour d'autres aussi, je pense, parce que et on est tous humains en errant sur cette terre, quel que soit où on aimerait aller visiter la Chine, on est toujours là, on suit le mouvement de l'histoire, des problèmes politiques et compagnie, donc on est toujours en errance. C'est peut-être, c'est une façon pour l'homme et pour moi aussi de retourner au mouvement originel, parce que l'homme historique est toujours en marche. Donc l'homme est toujours, n'est jamais sédentarisé. Il est toujours là pour marcher, pour découvrir d'autres mondes, d'autres territoires, de les conquérir et d'y habiter et créer une sorte de beauté, d'empire et tout. Quoi. Voilà.
Si je vous cite en page 67 donc, du Chant des Marais, seule la mer peut écrire la danse de mes angoisses. Ou encore, je partirai laissant derrière moi ce monde comme un bateau qui ruisselle au creux des vallées. Cette errance, c'est aussi l'exil.
Oui, c'est l'exil.
Cette obligation de quitter un lieu, en l'occurrence l'île où vous êtes né.
Oui, tout à fait. Donc, sachant que j'ai quitté Haïti en 2011. Et après le tremblement de terre, donc je suis jamais retourné malheureusement. On connaît déjà ce qui s'est passé et aujourd'hui c'est un peu difficile encore d'y aller. Donc voilà, je suis en perpétuel exil. Donc voilà, heureusement que j'ai une terre qui m'a accueilli, qui est la France. Donc cette terre d'accueil, c'est pour moi c'est assez importante aussi. Donc voilà, j'ai toujours porté cet exil et je pense que ça va rester toute ma vie.
Et est-ce que vous avez, de quelle façon est-ce que vos textes poétiques sont marqués par l'insularité? Avant de parler donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi c'est une lecture, oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette position un peu solitaire par rapport, qui est très facile à incarné puisqu'il s'agit d'une île, le fait d'être un ilien, est-ce que ça n'accentue pas davantage, quand on vous lit, l'exil? Ou bien pour moi c'est un aspect secondaire.
Oui, un peu. Je suis d'accord avec vous sur la question. Quand on est ilien, ça nous permet aussi de parler de l'exil qu'on vit, vous savez, et dans l'histoire littéraire, donc l'exil, des fois, c'est lié surtout à la politique, au climat. On connaît l'histoire de Victor Hugo, avec son exil, qui a écrit un chef-d'œuvre en poésie. Donc voilà. Donc c'est pas forcément parce qu'on est ilien, on peut écrire un truc. On peut écrire un truc sur les îles. Ça favorise en tout cas. Mais c'est pour vous dire que l'exil peut être politique et ça nous permet aussi d'écrire de belles œuvres.
Et en même temps, toujours dans ce même recueil, on voit donc, par exemple, ce vers « Mais je viens vers toi avec les mots qui ne savent pas nos souffrances ». C'est très fort, c'est des mots qui sont à inventer ou à réinventer comme une forme d'exorcisme pour écarter la souffrance et continuer à vivre.
Oui, tout à fait. Je pense que les mots nous permettent de penser nos blessures et aussi de penser à un monde meilleur.
En tout cas, c'est ce que la poésie s'efforce de nous apporter. Le temps d'écouter la musique d'un autre poète aussi, plutôt en musique celui-là, donc la musique de Nick Drake, Riverman.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose way to lose.
wanna see the river man. Gonna tell him all I can about the plan. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. Betty said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure, for when she thought of summer rain calling for her mind again, lost the pain and stayed for love. Gonna see the river man. Gonna tell him all I can about the band. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me.
Écoutez la voix de Nick Drake, le titre du morceau Riverman. Nick Drake, auteur, compositeur, interprète et musicien britannique, mort en 1974 à l'âge de 26 ans. Un très beau morceau, un vrai poète que nous écoutions à l'antenne. Toujours en compagnie de Watson Charles, qui publie notamment donc aux éditions Unicité le goût des ombres et Le Chant des Marais. Je cite également donc aux éditions Moire Le Ciel sans boussole. Il paraît difficile, Watson Charles, quand on s'adresse à un écrivain venu des Suds, enfin je dis Sud par simplicité de langage, lorsqu'on s'adresse à un romancier ou à un poète né dans le sud du monde, on est obligé d'évoquer son pays. Il est en quelque sorte, il ou elle, est plus porteur donc de son lieu de naissance que par exemple un écrivain né en Europe ou aux États-Unis. Est-ce que ça vient sans doute de cette condition d'exil? Pour un écrivain exilé, comme vous l'avez dit vous-même, que représente un livre? Est-ce que c'est un substitut à son pays? Qu'est-ce que ça représente un livre écrit par un exilé pour vous?
Je trouve que la seule chose qui permet à un écrivain, à un poète de rêver, c'est le livre. Je trouve que c'est une farce, c'est une façon cathartique, bon, je vais dire ça tout simplement, c'est une façon pour exprimer ses pensées, pour exprimer ce qu'il porte, quelle que soit la personne, femme ou homme, qui vient d'un pays, tiers-monde, littérature sud, comme on appelle. Et donc, le livre, c'est une sorte de garant à sa vie, à un souvenir aussi de son pays, parce que il peut toujours garder les souvenirs dans son cœur, dans sa tête, mais écrire un livre pour un écrivain, un poète, parler de son pays natal, parler de son île, c'est tout à fait quelque chose de grandiose.
Grandiose, vous dites.
Ouais, mmh. Oui, tout à fait.
Mais justement, qu'est-ce qui d'après vous, place la fiction ou la poésie écrite dans cette région du monde, en quelque sorte, à part pour vous? Qu'est-ce qui rend un peu singulier cette écriture-là? Alors, bien évidemment, chaque écrivain a son écriture à lui, bien sûr. Mais est-ce que vous, par rapport à ce contexte justement d'Haïti que vous évoquez, qu'est-ce qui rend cette écriture un peu singulière?
Je pense que toute écriture est singulière. Donc, une personne qui écrit d'Afrique de l'Ouest a une écriture singulière, tout autant que moi. Donc, voilà, c'est ce qui rend la chose belle, c'est ce que l'auteur restitue dans ce texte, dans son livre, dans sa poésie, qui le rend beaucoup plus et sublime, ou je sais pas. Donc, et moi, quand je lis un auteur sud-américain, donc je trouve que sa poésie est singulière par rapport à la mienne. Donc voilà, donc parce qu'il apporte quelque chose que moi que j'ai pas. Donc je découvre quelque chose, sa culture, ses coutumes, c'est sa vie, quoi.
Alors vous disiez justement que à partir donc de 2010, le tremblement de terre en Haïti, vous aviez l'impression, vous constatiez que les écrivains haïtiens avaient du mal à sortir donc de cette catastrophe. Et donc là, vous avez tenté d'écrire, de produire une écriture après séisme. Comment est-ce que vous pourriez le caractériser, cette écriture-là?
Oui, je dirais certains écrivains haïtiens, c'est pas tous les écrivains haïtiens.
En tout cas, c'était une tendance.
Ce qui
peut se comprendre.
Oui, bien tout à fait, je comprends, tout à fait. Moi, j'ai essayé d'écrire un livre sur l'amitié. Au lieu de parler des cadavres, des corps sans vie, des décombres, de parler des choses qui pour moi, sont douloureuses, quoi. Donc, je ne pouvais pas écrire un truc comme ça. Je ne peux pas écrire un récit qui parle de ça. Bon, je l'ai fait dans Le Goût des Ombres, mais c'est ce que j'ai vécu moi-même. Après, j'ai pas envie de dire que toutes mes œuvres parlent du séisme. J'ai pas envie d'écrire un roman comme certains l'ont fait, du séisme. Et c'est ça peut-être qui m'a un peu sauvé, parce que je voulais pas me considérer comme étant un écrivain qui est né à partir du tremblement de terre.
Vous, Haïti, donc, est votre territoire littéraire. C'est la matière, le sujet donc de vos textes. J'aimerais savoir. Alors, vous êtes loin donc d'Haïti. Et quel regard vous portez justement aujourd'hui sur votre pays?
Je crois qu'on connaît la situation d'aujourd'hui. Et étant qu'écrivain, je trouve que c'est très lamentable, ça devient beaucoup plus difficile. Donc,
pour un écrivain en particulier, ou vous parlez
de la situation de manière générale, ouais. quels que soient les gens en fait, qui vivent là-bas, quels que soient certains Haïtiens qui vivent en France ou ailleurs, au Canada, aux États-Unis, ils ont peut-être les mêmes ressentis, comme quoi ce pays va mal et on ne voit pas le bout du tunnel. Donc moi, étant qu'écrivain, ça me fragilise totalement. Je suis profondément et meurtri de voir comment ce pays va directement à la catastrophe complètement. Donc, je pense que c'est la littérature qui m'a sauvé de tout ça, qui a essayé d'apaiser mes colères, mes souffrances par rapport à ce pays-là, parce que c'est un peu difficile, c'est invivable dans ce pays aujourd'hui. Et sachant que vous connaissez bien l'actualité, et que 80% de la capitale est occupée par les, par les bandits, par les gangs armés. Donc il y a une sorte de chaos qui existe. Bon, c'est pas une sorte, c'est le chaos généralisé.
C'est le cas.
Donc voilà, mais malgré ça, on trouve que le peuple haïtien résiste et commence à vivre. Bon, je pense pas, je dirais plutôt, franchement, c'est du survie. Sans être dans le pathos.
Mais comment est-ce que vous arrivez à articuler, parce que vous, dans vos textes, vous décrivez, sous différents aspects, la condition très très dure, la souffrance de beaucoup d'hommes et de femmes en Haïti, et en même temps, vous essayez donc d'apporter un peu d'espoir. Comment est-ce que vous arrivez à articuler ces deux aspects qui sont quand même très très opposés, parce qu'on dit comment peut-on, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour penser l'avenir dans de telles situations? Et en même temps, la réalité est là, vous la décrivez. Comment vous articulez justement ce réel de souffrance et un début, un semblant donc, d'espoir qui pourrait venir?
Ce qui est certain, on ne peut pas échapper au réel quand on est écrivain. Je trouve que c'est quelque chose qui est essentiel pour nous, parce que le réel nous permet de dire le monde. La réalité, que soit on vit en France ou en Haïti. Donc, je pense que l'écrivain a ce doigt de regard sur le réel. Pour parler du cas d'Haïti, je trouve que, vous savez, et les Haïtiens ont toujours connu des mouvements, en fait, des catastrophes, des choses comme ça, des situations assez difficiles. Mais ça n'empêche pas que ce peuple continue de vivre et à porter de l'espoir. Donc, on peut le voir tout récemment, et ce pays est qualifié à la Coupe du Monde. Et il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent, qui apportent ce rayonnement-là à l'international, en France, au Canada, tout ça. Donc, je pense que c'est ce que je voulais montrer. Donc, dans ce roman, dans mes livres, comme quoi le peuple haïtien, malgré la catastrophe, arrive toujours à danser sur les décombres.
En même temps, il y a aussi... alors, ça veut dire qu'on déborde un peu. Est-ce qu'en en s'appuyant trop sur cette débrouillardise du peuple haïtien, est-ce que les politiques ne se défaussent pas, puisque les responsabilités ne sont pas prises, puisque finalement on se dit, mais finalement les Haïtiens finiront par s'en sortir et ont de l'espoir. Est-ce que ça ne défausse pas les gouvernants, les élites par rapport à ça?
Oui, tout à fait.
C'est un risque.
Oui, tout à fait. Donc, sachant que le peuple haïtien est toujours là pour s'en sortir et les politiciens ne prennent pas leurs responsabilités. Je pense que c'est au peuple aussi au peuple haïtien de prendre leur destin en main. Ils disent que les gens, en fait, la population, qui disent que ça ne peut pas durer comme ça.
Mis à part l'écriture, Watson Charles, quelle relation vous avez avec Haïti encore aujourd'hui?
En fait, j'ai pas trop que les souvenirs, puisque toute ma famille est en exil. Bon, en tout cas, une bonne partie. J'ai pas beaucoup de monde. J'ai pas beaucoup de famille en Haïti. Donc, ma mère, mes sœurs, mes tantes, mes cousins, et une bonne partie sont aux États-Unis. Donc, voilà. Donc, nous sommes un peuple en exil.
Quand il s'agit donc d'écrire sur Haïti, il y a les souvenirs, il y a le réel, il y a l'actualité, mais qu'est-ce que ça construit pour vous finalement comme nouvelle relation avec le pays, le fait d'écrire uniquement, pour l'instant en tout cas sur Haïti?
Ça me permet de rester en vie. Et franchement, en réalité, en vérité, je pense que c'est ça qui me permet de vivre et d'affronter la vie. Donc, ce sont les souvenirs et ma mère que j'appelle chaque jour et des amis que j'appelle d'Haïti pour prendre des nouvelles. Je suis toujours attaché au pays, même si je suis loin. J'appelle les amis pour prendre des nouvelles, l'actualité, tout ça, regarder ce qui se passe ailleurs dans le pays et essayer de rester encore attaché à ce pays malgré la distance.
Et est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez écrire sur un autre lieu, un autre espace qu'Haïti?
Oui, tout à fait. Au contraire, je travaille sur un texte qui parle de la France, de mon exil.
Aujourd'hui, en Haïti, malgré tout, il y a une... Alors, on connaît les écrivains connus, il y a malgré tout une vie littéraire en Haïti. Est-ce que vous êtes en contact avec ces écrivains-là qui sont encore là-bas? Comment se fait cet échange? Vous voyez parfois des festivals ici en France? Comment se fait cette relation?
Donc oui, certains Haïtiens, en fait, certains écrivains haïtiens qui sont restés au pays, je les croise assez souvent à Paris et je les appelle. J'ai des amis encore qui sont restés là-bas, qui écrivent. Bon, pas beaucoup en tout cas. Et bon, donc faut dire que ma relation avec certains écrivains haïtiens sont très bonnes. Donc voilà, on se croise, on se parle, on parle de l'actualité politique et littéraire du pays. Et donc voilà.
Parce qu'en fait, la vie de ces écrivains haïtiens n'est pas seulement à l'étranger. Effectivement, il y a beaucoup comme vous qui sont au Canada, aux États-Unis, ici en France, mais il y a malgré tout une vie littéraire là-bas.
C'est, oui, tout à fait, tout à fait.
Des festivals, mais des revues. Pas... Alors, dans les conditions difficiles, évidemment,
tout à fait,
mais
ouais.
Malgré tout, ça continue.
Oui, tout à fait. Bon, et écoutez, il y a Lionel Trouillot qui habite là-bas, il y a Yannick Lahens, il y a Gary Victor, il y a... bon nombre d'écrivains qui sont restés et qui travaillent et qui essaient de faire bouger les choses culturellement et puis d'apporter d'autres choses à cette jeunesse-là, à cette population-là.
Il est important de le souligner parce qu'effectivement, malgré la situation, Haïti n'est pas qu'un mouroir en fait. Il y a malgré tout une vie culturelle. On se demande comment ça peut exister encore, mais oui, ça existe encore. C'est encourageant.
Oui, tout à fait.
On écoute encore la musique de David Walters qui reprend un thème du folklore haïtien qui s'appelle Merci bon Dieu. On écoute la musique de David Walters.
Merci bon Dieu, gardez tout ça la nature pour Dieu pour nous. Merci bon Dieu. Gardez comment la misère finit pour nous. La pluie tombée, maïs poussé, tout le monde qui grand goût va les manger. On nous danse Petro, on nous danse Mambo. Papa bon Dieu dit non, c'est la misère finie pour nous. Misère a fini pour nous. Misère a fini pour nous. Misère a fini pour nous. Misère nous finit. Thank you.
là, mi c'est fini pour nous, 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 mi c'est nous fini.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
David Walters, le titre du morceau « Merci bon Dieu » en créole, ce qui en français veut dire tout simplement « Dieu merci ». David Walters reprend donc un des thèmes du folklore haïtien qui est donc très très connu. Nous sondons les mers comme un astre translucide où tout devient mortel. Telle une prière, nous évoquons la chute des comètes, où toute chose blasphémée redevient toi-même. Loin des fleurs jetées, sur les tombes, je réinvente la courbe du temps, et mon corps n'appartient qu'à toi. Dure est la chrysalide qui regarde mes yeux incrédules. Comment revivre les siècles enfouis dans le mutisme des ombres, palpant nos gorges, battant nos reins, à grands coups de symphonie. Ce poème est extrait donc de Saint-Noir, votre dernier recueil, Watson Charles, publié aux éditions et Thalides. Racontez-nous un peu la naissance de ce recueil.
Il faut dire que ce texte.
Alors, ça, c'est S-E-I-N. Hein,
oui, oui. Oui. D'accord. Donc, ouais. Ce texte est paru en 2022, et il a été finaliste au Grand Prix de Poésie Société des gens de lettres. C'est un texte en quatre parties qui parle d'inégalité, de l'exil, mais aussi de guerre. Donc la dernière partie c'est consacrée à la guerre. Surtout les guerres qui se passent dans ce monde, en Syrie, en Afrique, mais surtout aussi chez nous en Haïti, puisqu'il y a une guerre qui ne dit pas son nom, donc qu'on regarde avec indifférence. L'Occident regarde avec indifférence, malheureusement. Donc je voulais écrire ce livre pour non seulement parler de ces guerres-là, mais aussi pour ma mère, qui est aussi loin de moi.
Comment et qu'est-ce qui vous porte à donner à ce recueil un titre plutôt qui évoque la sensualité?
Donc, avant tout, je voulais transgresser le texte. Je voulais transgresser pour montrer Saint-Noir. Et avant, c'était le saint de l'Église. Mm-hmm. Donc, et c'est mon éditeur qui me disait vas-y, mollo. Et ça peut voir, on peut être censuré. J'ai dit, mais on est au 21e siècle, je ne pense pas qu'on peut nous faire ça. Donc après, il me disait, bon, écoute, on va mettre saint, encore plus provocateur.
Donc, il voilà. Est allé plus loin que vous.
Oui, donc voilà. Donc, mais c'était un désir de c'était un clin d'œil aux femmes, hein, parce que moi, toujours, les femmes sont très importantes dans mon combat. Donc comme je disais, je suis très féministe en ce sens. Bon, je pense pas que c'est ça qui va évoquer mon attachement à leur idéologie.
En tout cas, c'est une évocation au féminin.
Ah oui, au féminin. Donc voilà, c'est aussi pour parler des femmes, de la guerre et un clin d'œil à ma mère.
Est-ce que avec le temps, la condition de la femme en Haïti a un peu bougé? La femme a eu pendant très longtemps un statut mineur en Haïti. Ça a quand même bougé.
Je ne crois pas. Il faut faire une étude sociologique sur la population et faire une enquête pour voir est-ce que ça a bougé parce que moi je peux pas le dire. Parce
mais c'est-à-dire si vous évoquez donc comme vous dites souvent la figure féminine, c'est en partant de sa condition qui à l'origine était enfin déjà dans d'autres pays aussi, mais en Haïti avec une position quand même très souvent rabaissée.
Oui, je pense que ça n'a pas trop changé malheureusement. Bon, il y a des combats pour essayer de radicaliser, en fait de éradiquer, excusez-moi. Certaines pratiques, et donc je pense qu'il y a une conscience maintenant qui est en train de d'avancer, en fait mise en place pour essayer d'éduquer et les femmes, mais surtout les hommes, hein, nos petits garçons, donc c'est important aussi. Donc c'est pas que les femmes qu'il faut éduquer et sensibiliser, mais aussi les hommes. Donc je pense que c'est il faut voir ça du point de vue, c'est les hommes qu'il faut éduquer pour essayer d'apporter une sorte d'équité dans la société, d'essayer de d'avancer ensemble.
Est-ce que vous avez le sentiment que évoquer un tel sujet, c'est bien sûr encore une fois les figures féminines sont souvent présentes dans vos textes, Watson Charles, mais sous ce registre-là, est-ce qu'il a été plus facile pour vous d'en parler sous forme de poésie que de prose?
Non, c'est la prose
qui reste malgré tout la meilleure façon pour vous, donc
plus expressif, ouais.
Plus expressif. Ouais. Et mais vous avez donc écrit de la poésie avant ou l'inverse? C'est d'abord le roman.
Non, j'ai écrit, donc c'est la poésie en 2010, j'ai sorti un texte pour que la Terre s'en souvienne en 2010, et puis après j'ai Le Chant des Marées, et puis roman, nouvelle.
Et on dit souvent que les Haïtiens sont un peuple de poètes, et c'est une attirance qui vous est venue très tôt en Haïti, l'écriture de la poésie. Est-ce que vous avez des souvenirs déjà par rapport à votre scolarité? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose, ce goût de la poésie et de l'écriture, déjà au moment de vos jeunes moments de scolarité?
Oui, je pense qu'effectivement, les Haïtiens sont très attachés à la poésie. Dès l'enfance, on apprend de la poésie par cœur, et à l'école, et aussi dans des clubs littéraires, tout ça. Donc c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je suis entré en littérature par la poésie. Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'écrivains haïtiens. De mémoire, je peux citer une dizaine comme ça. Donc voilà. Donc c'est parce que peut-être culturellement, on est attaché à la tradition orale. Je pense que c'est les contes, les rumeurs, les chants populaires, tout ça. Donc ça nous a permis, en quelque sorte, nous, poètes, de rentrer par cette voie-là, qui est la poésie. Et donc, j'ai commencé avec la poésie, et je garde une bonne partie de poésie en moi. Je trouve que c'est le mouvement de toute création poétique et littéraire.
Est-ce que vous avez des souvenirs justement des contes qu'on vous racontait, des contes qu'on tirait le soir uniquement?
Oui, bien sûr. Mais ce qui m'a marqué, j'ai une enfance plus ou moins heureuse à ce sujet-là. Non, ce qui m'a beaucoup marqué, et c'est surtout et quand j'étais à l'école, et on récitait déjà la poésie chez moi. Donc je suis élevé dans une famille plus ou moins lettrée, et on lisait un petit peu de la poésie, et ça m'a beaucoup marqué. Et je me rappelle très jeune, j'étais très très jeune, j'étais au collège, je lisais déjà Descartes, Discours de la méthode, donc voilà, et Lagny Curbon, c'est des trucs que j'ai commencé très très jeune. Donc après, j'ai fait l'école buissonnière un petit peu, l'Institut français d'Haïti, donc qui était au bicentenaire, et en face de la mer, tout ça, c'est là que j'ai commencé à croiser des poètes, des écrivains et des auteurs français à l'époque. Bon, je n'ai pas le souvenir, je me rappelle très peu de leurs noms. Et ce cadre poétique et littéraire m'ont permis à continuer dans cette voie-là. Je trouvais que écrire de la littérature, écrire de la poésie, était quelque chose de fabuleux, quelque chose de l'ordre d'inaccessible, quoi. Voilà.
Et aujourd'hui, quel poète vous accompagne, quel écrivain, quel romancier, quel poète vous accompagne encore aujourd'hui?
Moi, je disais dernièrement dans une émission, et le poète, l'écrivain qui m'a beaucoup marqué, c'est Émile Ollivier, Passage. Donc, il faut lire toutes ses œuvres pour comprendre sa dimension à la fois mystique.
Un écrivain haïtien
bien sûr.
Qui a longtemps vécu au Canada.
Au Canada, qui a vécu au Canada, très peu connu en France. Et Davertige aussi, qui a écrit un très beau texte, « Ô ma Barigord, la ville que j'ai créée pour toi, en prenant la mer dans mes bras, les paysages autour de ma tête. Toutes les plantes sont-ives et portent leur printemps. » Donc voilà, c'est pour vous dire que j'ai toujours gardé, très jeune, je commence à réciter des poèmes. Bon, maintenant, je commence à être, je ne suis pas trop jeune. Donc voilà, mais c'est pour vous dire que il y a des écrivains qui m'ont beaucoup marqué, des poètes haïtiens et même des poètes étrangers, bien sûr.
Est-ce que pour vous, la poésie reste une forme de... Est-ce que c'est le plus haut moment du langage pour vous, la poésie?
Oh, il y a tout un débat à la fois philosophique et critique sur ça. Donc, on connaît depuis l'Antiquité, Platon ne voulait pas des poètes, on est des fabulateurs, on est des menteurs. Et bon, écoutez, je trouve que Platon n'a pas raison, il s'est trompé là-dessus.
Donc, je pense... On est bien d'accord.
Oui, donc voilà. Donc pour moi, la poésie reste quelque chose... Franchement, je le dis honnêtement, je pense que... L'homme a commencé à parler, a commencé. Le premier signe de l'homme, c'est de la poésie, c'est les chants. Donc voilà, on commençait par les chants, par le langage humain passe déjà depuis l'Antiquité. En fait, l'Homo sapiens, c'est le chant, c'est de la poésie. Donc voilà, si on remonte dans l'Antiquité, c'est là que Platon, c'est pas trop bien parce que l'Iliade, c'est de la poésie. La structure narrative de l'Iliade, c'était un chant poétique. Alors, ce qu'on appelle les chants homériques. Donc voilà. Donc je trouve que la poésie est essentielle dans l'humanité et ça fait partie intégrante de l'homme.
Et pour les prochains mois, toujours l'écriture de ces, vous continuez sous ces deux formes, roman et poésie. Pour vous, il y a pas de le choix n'est pas fait, les deux sont retenus.
Oui, tout à fait.
Et en revanche, on a concernant le dernier recueil pour finir, donc Saint-Noir, on a un peu plus de mal à le trouver aux éditions et Thalidès. Est-ce que
c'est bien difficile? C'est un recueil très bien diffusé.
Il est maintenant diffusé. J'ai eu du mal à le trouver.
Toujours bien diffusé. Bien. Donc chez Pollen. Donc voilà. Donc c'est dans toutes les librairies.
Et les autres titres, donc comme Le Chant des Marées ainsi que Le Goût des Ombres, c'est aux éditions Unicité. Tandis que Le Ciel sans boussole, c'est les éditions Moire. Et donc on le disait, c'est Noir aux éditions et Thalidès. Voilà, merci Watson Charles d'être venu nous rendre visite aujourd'hui à l'antenne d'Aligre FM.
Merci de m'avoir invité.
Vous avez donc le choix donc de vos livres, bien sûr sous différentes formes littéraires. Merci Armand Gury qui était à la technique ce soir. Amis auditeurs et amis auditrices, je vous remercie de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Dancehall Reggae Vibes. Et à 22h30, Audiométrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à l'écoute d'Aligre FM. Bon week-end, bonne semaine et à samedi prochain.
Version originale. Patrick, Léon Émile.
Yeah. Slash, drugs. got me waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you and the baby on my bitches student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. Bet they try to make a play for the yay as soon as they taste it. The invasive black American gangster sinister the corner hugger. Seeing this nigga shining and knowing me like a motherfucker. This buster owe me, now he act like he don't know me. 44, my closest homie, kill cockroaches like Tony. Got Montana motors. You bought 100 dipping fluid, yo, I had to smoke it. Pupils dilated like silver dollars, now we loking. Call it devilish how I do biz. Fuck these niggas talking, I leave their thoughts on my shoestrings. What? Straight to FNH is what I'm holding. A buster that we know got 50 bowls, bust it open. We came banana up, divided up, now what's the quotient? I split with four niggas, since I'm a go-getter. I think these suckers pussy, I'ma murk the whole litter. Told my girl to leave as soon as I hung up the phone with her. Man, I heard you robbed the robbers, look Freddy, you cold nigga. Got an ice maker for a heart, made nigga from the start. Life is like a movie, all I did was play my fucking part. Chefing up the crack, the heroin, the weed, out of car. I call it Fast Freddy's, I should own a fucking restaurant. Cause back when I was 12, threw some bells on the scale and I got a pager. We broke them down and started selling nickels to the neighbors. Eventually the penitentiary gon' see me later. Kiss my mama, told her if I died and it was part of nature. What?
Vous écoutez Aligre FM 93.1.